Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine, je t'accompagne dans ton activité de freelance en t'aidant à te poser des questions réellement à ton service et à progresser sur tous les sujets qui touchent à ce mode de vie. Dans l'épisode du jour, qui est déjà la dernière interview de cette saison 3, j'ai le grand plaisir d'accueillir Amandine Comte à mes côtés. Amandine est illustratrice et directrice artistique indépendante depuis maintenant plus de 10 ans et ça fait d'ailleurs plusieurs années que je suis son travail avec toujours le même constat. À chaque fois, je me dis « Waouh, cette personne, Amandine, elle a vraiment un univers et un style bien à elle qu'on reconnaît dès le premier coup d'œil. » Et avec le temps, je me rends compte que même moi, en étant à l'extérieur et suivant de manière passive, je suis capable de reconnaître une illustration d'Amandine en un coup d'œil en scrollant sur Instagram. Et du coup, dans cet épisode, on a beaucoup parlé de son cheminement créatif autour de la construction de cet univers d'illustration, de sa patte graphique. On a parlé aussi de l'impact que ça pouvait avoir d'avoir cet univers sur sa manière de trouver des nouveaux projets, des nouveaux clients et sa prospection. On a aussi parlé de comment elle s'organise pour continuer d'alimenter cette cohérence et de comment elle se sent face à cet univers émotionnellement, surtout dans les moments où elle pourrait avoir envie de faire et de tester autre chose, parce que, encore une fois, ça fait 10 ans qu'elle a cet univers cohérent. Du coup, c'est un échange que je trouve très intéressant et qui permettra même à ceux d'entre nous qui n'ont pas de base un métier de création ou créatif, entre guillemets, de nous questionner sur l'importance d'être reconnaissable dans son travail et dans son approche. Mais juste avant de te laisser te plonger dans la discussion, j'aimerais t'inviter à rejoindre le reste de la communauté dans ma newsletter, où chaque semaine, je partage des réflexions de fond sur les choses de nos vies qui ont un impact sur notre activité d'indépendant. Et comme tu le sais sûrement, je mets beaucoup d'attention et d'énergie dans le fait de pousser au questionnement, et c'est encore plus le cas dans la newsletter, Du coup, je serais ravi de te compter dans cette belle communauté qui grandit chaque jour. Tu peux du coup la rejoindre sur thomasburbidge.com/newsletter. Et d'ici là, je te souhaite une belle écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode. Bonjour Amandine, bienvenue sur le podcast.
Merci, mais c'est gentil, merci.
Je sais que du coup, c'est, tu me le disais juste avant, première expérience d'enregistrement, mais aussi tu n'as jamais écouté d'un seul épisode de podcast.
Oui, non, jamais, ça craint. Pourtant, je ne suis pas si vieille et je devrais être à la page, mais non, jamais.
T'es très active sur plein d'autres réseaux sociaux, donc oui. C'est juste voilà. Une découverte, t'en fais pas, n'es pas en retard.
C'est ça.
Plein de choses que j'ai envie de voir avec toi, et ce que je disais aussi, pour ceux qui ne savent pas, ça fait un moment que je suis Amandine sur LinkedIn et que je vois passer son travail. Et que j'adore son travail d'ailleurs, donc ça c'est très cool, je suis très heureux de discuter avec toi. Et pour qu'on rentre un peu dans cette conversation, on va commencer par la première question rituelle. Amandine, comment et pourquoi tu es devenue indépendante?
Alors, donc je me suis mise à mon compte il y a très longtemps, c'était en 2010, donc j'étais salariée en même temps. Donc, j'avais juste créé mon statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir répondre à des missions en plus de mon job de salarié. Et donc, je suis en freelance à 100% depuis 2014. Pourquoi ? Ça, c'est les expériences qui ont voulu que j'en avais vraiment marre d'être salariée. J'ai eu des très bons managers comme de très mauvais managers. Et en fait, la dernière m'a carrément dégoûtée. Et donc, du coup, j'ai décidé de démissionner. Et me jeter un peu dans le vide, parce que du coup, en démissionnant, j'avais aucune aide, enfin rien du tout, quoi, pas de chômage, rien pour me lancer. Et voilà, mais bon, rapidement, ça a très bien tourné, donc j'ai fait un bon choix. Et je regrette surtout pas. Et en fait, maintenant, je pourrais pas retourner... Non, je pourrais pas retourner bosser pour un patron, ça serait plus possible.
J'ai exactement la même chose que toi sur ce point-là, je pourrais pas redevenir salarié. Mais du coup, quand tu quittes cet emploi, c'était dans quoi d'ailleurs? T'étais en agence?
Alors non, j'ai bossé en entreprise. En fait, j'ai bossé plusieurs années pour l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers, donc domaine un peu militaire, assez strict et tout. Donc ça, c'était ma première expérience. Et après, j'ai bossé pour l'Université d'Aix-Marseille, donc au service com. Et là, ça a duré, je sais plus, 4 ans, je crois. Et en fait, quand j'ai été embauchée, c'était pour l'Université de Provence. Et au bout de 1 an et demi ou 2 ans, il y a 3 universités dans le secteur qui ont fusionné. Et en fait, cette fusion, comme souvent, ça se passe pas toujours très bien pour les personnels qui sont employés. Enfin, on est dans un gros bateau et on suit la vague. Ouais. Et donc voilà, ça s'est pas très bien passé pour moi et du coup je suis restée un moment puis au bout d'un moment j'ai décidé de partir.
Et du coup pourquoi à ce moment-là tu te dis ça se passe pas bien, je vais devenir indépendante plutôt que de te dire je vais changer d'entreprise?
Mais en fait parce que déjà dans mon domaine c'est pas évident de trouver du job. En plus j'avais quand même des exigences au niveau de la rémunération. Il y avait aussi le fait que je faisais pas de web, donc je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est impression et illustration. Et voilà, les entreprises qui embauchent en général ou les agences, ils prennent des profils qui sont un peu touche à tout. Souvent, malheureusement, c'est pas forcément super bien payé. Donc, enfin, tout ça accumulé fait que et aussi la mauvaise expérience avec les managers. A fait que j'en avais vraiment marre et j'avais qu'une envie, c'était d'être libre en fait et de faire mon chemin toute seule. Voilà, mes propres choix, mes propres erreurs, personne qui me dicte une conduite à tenir. Voilà, j'avais besoin de liberté en fait.
Ouais. Et tu t'y es prise comment du coup au tout début avec cette envie de liberté et du coup ce manque de filet de sécurité finalement sans avoir le chômage et tout ça?
Ben donc j'ai eu de la chance d'avoir mon compagnon qui était présent, qui m'a aidée. Financièrement, parce que ben si j'avais été seule célibataire avec des charges comme des loyers, des choses comme ça, ça aurait été trop stressant. Donc du coup ça me rassurait. Après j'ai fait des économies aussi quand j'ai décidé de démissionner pour avoir un peu de marge. Et après voilà, au niveau de mes choix, mes premiers choix et tout, ça a été tout s'est fait tout seul en fait. Donc et comme le fait aussi que j'étais déjà à mon compte en parallèle depuis un moment, j'avais quand même la connaissance du terrain et ça me rassurait aussi. C'est pas comme si du jour au lendemain, je me disais, bon, j'ai jamais fait un devis, j'ai jamais rien fait en termes de, d'entrepreneuriat, et je me jette à l'eau comme ça. Non, je connaissais déjà une certaine partie, donc ça me rassurait.
Ouais, c'était un peu une phase de transition finalement, qui fait que t'étais pas en terrain complètement inconnu.
Exactement. Puis je suis d'un tempérament quand même très réfléchi, donc après aventurière, mais réfléchi. C'est-à-dire que je me jette pas à l'eau sans avoir anticipé toutes les possibilités. Et puis bon, le choix était mesuré, donc c'est sûr que j'avais une part de risque. Mais bon, voilà, après... De toute façon, je savais que si vraiment je m'en sortais pas, il me reprenait. Il m'avait dit, si tu arrives pas, on te reprend. En fait, il voulait pas que je m'en aille, mais bon.
Ah oui, donc il y avait quand même cette
sécurité. En fait, il y avait la manager directe que je pouvais pas encadrer, on peut le dire clairement. Et après, tous les grands responsables, VP, président, etc., ça se passait très bien. Donc voilà, c'était juste une question de relationnel direct. Et voilà, ça, j'ai pas pu... Voilà, trop de mauvaises expériences à force. On se dit, on a besoin de vivre son truc seul, voilà.
Ouais, bah ouais. Il y a un des sujets dont je voulais parler avec toi, parce que c'est un truc qui me frappe énormément dans les années depuis lesquelles je suis ton travail, mais aussi quand je regarde ton portfolio, ton Insta, ton site, tout ça. C'est qu'il y a une cohérence et une harmonie dans ton travail que je trouve assez folle. Et je te racontais avant qu'on commence à enregistrer, des fois je voyais passer tes illustrations et je les avais en tête et je me disais, mince, comment elle s'appelle déjà? Et je t'identifiais plus par ton univers que par ton prénom-nom. Et du coup, c'était assez frappant, quoi. Et j'aimerais bien savoir, du coup, comment est-ce que tu t'y prends en tant que personne créative, designer, illustratrice, pour avoir autant de cohérence dans ton univers?
Eh ben, en fait, je sais pas, j'ai rien de réfléchi à tout ça. J'ai vraiment des trucs qui m'inspirent, comme l'univers des femmes, le portrait, tout ça. Et après, mon trait de crayon, ça, c'est vraiment pas du tout voulu, hein, c'est... Voilà, je réfléchis pas et je pose ça comme ça, et c'est un gros compliment d'entendre ça, parce que du coup c'est un peu la concrétisation et ce qu'on espère, hein, quand on est entre guillemets illustrateur ou artiste, c'est qu'on reconnaisse en un coup d'œil nos dessins. Et voilà, c'est vrai que c'est pas du tout réfléchi.
Ouais, parce
que pas vraiment d'explication.
Ben c'est vrai que en essayant de documenter la préparation de l'épisode, je suis remonté loin dans tes créations. Je suis remonté à ton tout premier post Instagram qui date du 26 mai 2014. C'était déjà plus ou moins le même style, tu vois. Après, je sais pas si t'en as supprimé, mais
j'en ai supprimé aucun. C'est vrai que ça remonte.
J'ai l'impression que cet univers, du coup, tu l'as depuis quasi toujours. Frère, j'ai l'impression que tu l'as toujours eu. Genre, tes premiers dessins sont déjà dans cet univers-là.
Ouais. C'est après j'ai évolué un peu au niveau de la technique parce qu'on s'améliore forcément. En plus, je dessine de plus en plus. Enfin, avant, je dessinais le temps que j'avais de libre. Maintenant, entre guillemets, c'est tout mon temps qui est consacré à ça. Mais c'est vrai que l'univers en lui-même, tout ce qui est portrait, femme, l'expression, l'émotion qu'on ressent dans ces dessins, c'est ce qui m'inspire. Donc, c'est le fil conducteur en fait. Dans toutes mes créations. Et le style un peu crayonné, après ça, c'est vraiment... Pourtant, il y a plein de styles qui me plaisent, hein, mais je sais pas, c'est ce qui me vient quand j'ai envie de dessiner. Mais après, suivant les supports, on change complètement. Des fois, je fais des peintures murales, par exemple, sur à l'acrylique, sur mur. Quand je fais des peintures à l'encre ou suivant digital ou suivant les supports, en fait, la technique, elle peut varier et on va peut-être plus ou moins reconnaître, par contre. Je pense à la fresque que j'ai faite chez moi. C'est vrai que on reconnaîtra moins par rapport à des portraits crayonnés classiques, mais ça, ça dépend du support aussi.
Ouais, c'est un sujet dont je voulais parler justement, tes fresques murales, parce que c'est un support client, enfin un support de livraison, de livrable entre guillemets, que je vois pas non plus ultra souvent chez les illustrateurs. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas la première chose à laquelle on pense. Non. Et du coup, je suis curieux de ce qui t'a emmené à ça.
Ben en fait, donc déjà il y a une part de confort parce que moi j'aime bien peindre à la peinture, mais j'aime pas peindre sur des petits supports. Donc tout ce qui est quand je fais des créations personnelles à la peinture, la toile, il faut vraiment que ce soit des grands formats et du coup je préfère le faire sur un mur tant qu'à faire. Mais après pour les clients, en effet le côté livrable c'est un peu plus compliqué. Donc, j'en ai pas fait beaucoup des fresques murales directement sur mur. Par contre, des illustrations digitales qui sont imprimables sur des panneaux ou sur des toiles tendues ou sur du papier peint, tout ça, ça par contre, oui. Et du coup, ça enlève cette contrainte d'être sur place, de pouvoir se déplacer, parce que des fois, ça prend plusieurs jours, etc. Donc, le côté travail à distance et le numérique, ça simplifie pas mal la donne, en fait. Entre autres, une illustration que j'ai pu faire qui a plu à une boutique de produits cosmétiques bio en Autriche. Elle m'a été achetée, enfin cette illustration numérique m'a été achetée, ils l'ont fait imprimer, ils l'ont fait poser là-bas dans leur boutique sur place. Donc c'est vraiment magique hein, maintenant ce qu'on peut faire.
Ouais, c'est cool, c'est fou.
Ouais.
Parce que justement, j'avais lu un peu sur ton site. Pareil, on saute en avance dans mes questions, mais c'est pas grave, c'est top, ça suffit de la conversation. J'avais lu sur ton site, t'as des petites fiches de présentation de tous les différents supports où ton travail peut être utilisé. Donc tu parles du print et de l'impression, tu parles de l'identité visuelle et tu parles aussi du coup de ces différentes techniques pour tes fresques murales. C'est quoi ta réflexion dans le fait de mettre ces différentes petites présentations sur ton site? Parce que pareil, ça c'est quelque chose que... Voilà, on voit pas classiquement sur les sites d'illustrateurs, on voit le travail, mais jamais ces petites présentations-là. Ouais, c'est quoi ta réflexion derrière?
En fait, je pense que c'est un peu une déformation professionnelle du côté la formation en communication que j'ai eue. Parce que moi, j'ai fait un BTS en com visuel, donc j'ai aussi eu des formations sur l'image de marque, comment se présenter, comment accompagner les entreprises dans leur stratégie et tout. Donc en fait, je l'applique aussi à moi. Et sur mon site, je souhaite accompagner le client parce que le client, il vient, mais des fois, il sait pas trop ce dont il a besoin, donc il a besoin de conseils. Et encore plus dans ce domaine-là, parce que l'illustration, c'est quand même un domaine qui n'est pas forcément super connu. On n'y pense pas toujours. Donc, c'est vrai que, bon, sur mon site, on n'y vient pas par hasard parce que j'ai pas un super référencement. Donc, mais bon, au moins, une fois que le client est un peu animé ou le visiteur est là... il arrive à être un peu accompagné dans les différentes possibilités qui s'offrent à lui. Donc l'illustration, en effet, qui peut être sur tout ce qui est ouvrage, magazine, packaging cosmétique, que je fais pas mal, dans la création d'images de marque. Donc ça peut être sur des murs de décoration ou d'autres supports, brochures, etc. Donc ouais, c'est très vague. Et après, jusque à l'illustration personnelle qu'on peut commander...
Ouais. Parce que justement, effectivement, une des forces que je trouvais dans cette manière que tu présentes sur ton site, c'est que c'est très éducatif. Et je pense à cette boutique en Autriche dont tu parlais là. Peut-être que, en découvrant ton travail, ils avaient absolument pas idée que même techniquement, c'était possible d'en prendre une et de la mettre en grand sur un mur.
Ouais.
Et cette petite fiche-là, ça permet de se dire, ah tiens, et si on faisait ça? Et
c'est ça.
Presque même de créer les idées, quoi, pour les clients.
Exactement. Alors après, eux, ça s'applique pas pour eux parce que là, je l'ai refait mon site il y a pas longtemps, je l'ai refait en janvier. Ça, c'est un travail de avant. Mais depuis, en effet, que j'ai mis mon site à jour, etc., j'ai des demandes régulièrement comme ça d'habillage mural, que ça soit pour même des décorateurs, des collaborations avec des décorateurs. Tout ce genre de choses. Mais par contre, donc la boutique en Autriche, eux, ils sont tombés sur ma page Instagram. Ils ont flashé sur le dessin et ils m'ont demandé s'ils pouvaient me l'acheter. De la même manière que Mariono m'a acheté une illustration pour une ordonnance beauté ou le petit Robert pour la couverture du dictionnaire quand je me suis lancée. Ça, c'était un truc magique. Juste au moment où je me lance. Voilà, c'était merveilleux.
C'est un des projets dont je voulais parler justement parce que je pense... Enfin, après, je ne suis pas sûr qu'il y ait tous tes projets dans ton portfolio, mais le petit Robert, c'est quand même sûrement une des plus grosses vitrines
pour
ton travail, quoi. C'est un dictionnaire qui a acheté je ne sais combien d'exemplaires. Du coup, plein de gens qui le voient. Tu peux nous en raconter un peu plus sur ce projet-là, du coup, parce que si c'était à ton lancement, c'est intéressant de savoir comment tu l'as eu.
C'est le destin, en fait. Moi, je crois en la bonne étoile et ça en fait partie. Donc ce dessin de Nelson Mandela, en fait, c'est lui qui a attiré l'attention des éditions Robert. Je l'avais fait à la mort de Nelson Mandela. Ça m'avait touché comme je fais souvent des dessins dans ce cadre-là. On peut me dire que c'est un peu triste et un peu bloc, mais ça fait partie du truc. Et donc, j'avais fait ce dessin. Et je sais pas de quelle manière ils ont réussi à tomber sur ce dessin. Parce qu'à l'époque, j'avais pas une page Insta avec
tant de
puisque j'en ai quand même un peu, même si c'est pas énorme. Et du coup, ils sont tombés dessus. Et donc, c'était, en gros, j'ai démissionné et c'était quoi, 15 jours, 3 semaines après qu'ils m'ont contacté. Et en me disant, voilà, on est tombé sur votre dessin. En fait, c'est une... Comment ça s'appelle déjà ? Ça fait longtemps que j'ai pu travailler avec le milieu d'édition. C'est une acheteuse d'art, en fait, mais spécialisée dans le domaine d'édition. Je sais plus comment ça s'appelle. Qui m'avait contacté de la part des éditions Robert. Et après, donc me demandant si j'étais... ouverte à cette proposition, c'est-à-dire de leur vendre l'utilisation du dessin. Et après, une fois que ça a été enclenché, donc ils m'ont commandé aussi le Taj Mahal que j'ai dessiné à côté de Corto Maltese sur la couverture. Donc en fait, j'ai fait deux illustrations sur trois. Et après, ils m'ont refait bosser l'année d'après, mais ça n'a pas abouti. La couverture n'a pas abouti. Bon, après ça, ça fait partie du métier, malheureusement.
Ouais, c'est clair.
Comme tu dis, je présente pas tout et je présente pas tous les projets qui n'ont pas abouti parce qu'il y en a qui étaient fabuleux et malheureusement des fois ça n'aboutit pas pour X raisons. Quand c'est des grosses boîtes, c'est compliqué. Mais bon.
Ouais, c'est toujours le jeu, hein.
Ouais,
du
voilà.
coup, c'est intéressant dans ce projet-là. Du coup, tu parles du fait qu'il y avait une illustration que tu avais déjà faite qui t'a été achetée et une faite sur commande.
Voilà, c'est ça.
C'est quoi du coup la proportion dans ton activité entre les deux, parce que j'ai l'impression que souvent c'est beaucoup de l'un ou beaucoup de l'autre.
Ouais, alors entre acheté et enfin déjà fait et sur commande, c'est on va dire jusqu'à maintenant c'était 100% du sur commande pratiquement. Okay. Après c'est voilà les cas comme Mariono ou la boutique en Autriche ou quoi, c'est vraiment des cas un peu à part. Où c'est vraiment c'est super pour moi, c'est tout bénef parce que le dessin est déjà fait, donc j'ai plus qu'une session à vendre. Mais par contre c'est vraiment très rare. Mais maintenant que je fais que donc on en parlera peut-être après, mais juste dans ce cadre que j'ai ouvert ma boutique de création personnelle, là pour le coup je peux développer les ventes de ce qui est déjà fait. Mais sinon mes clients en fait ils viennent à moi, ils ont un brief, ils ont une commande client et après donc on s'adapte à leurs besoins et on crée sur mesure. Voilà.
Ouais. Et du coup, j'imagine que tu as quand même une création personnelle assez soutenue parce que tu publies très souvent du contenu d'ailleurs de tes dessins, ou que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn, où moi je te suivais. C'est quoi du coup l'équilibrage que tu essaies de trouver dans ton quotidien entre je dessine pour moi et je dessine pour les clients?
Ben, c'est très difficile. Il n'y a pas vraiment d'équilibrage. Hein. En fait, si mon chéri intervenait dans la conversation, il dirait qu'il en a parfois ras-le-bol. Parce que
tu dessines tout le temps.
Ouais, c'est un peu à 100%. C'est un métier passion. Donc, maintenant que je suis maman, j'essaye de me consacrer plus de temps séparé à la vie de famille. Donc, j'essaye de me cadrer sur des horaires. Mais vraiment, toutes les créations que je poste sur Insta ou sur LinkedIn, c'est que des créations perso pratiquement. De temps en temps, je poste des projets pour clients aboutis, mais les trois quarts du temps, c'est que du personnel. Et du coup, c'est vrai que c'est en dehors de mes créneaux de mes créneaux horaires. Donc, c'est le soir, le week-end, souvent le soir. Voilà. Donc, au
tu
lieu
dirais
de me caler...
que...
Oui.
Vas-y, pardon, finis ton idée.
Me caler dans un film le soir, souvent, je me mets à part, à côté, et je dessine, et voilà. Ou alors avec l'iPad dans le canapé, et je fais mes dessins perso, et voilà. Mais du coup, la journée est pleine.
C'est quoi ton rythme?
Le rythme, c'est-à-dire à quel niveau sur...
Combien de temps ça te prend un dessin? À quel rythme tu sors ces créations si tu
alors,
dessines tout le temps?
Alors, mes dessins perso, c'est pas très très long à faire. Parce que du coup, il n'y a pas de brief, il n'y a pas de sketch, il n'y a pas de validation, il n'y a pas tout ça. Donc les persos, je peux en sortir un en une heure ou deux. Voilà, c'est bouclé. Enfin, ça dépend si c'est des techniques traditionnelles ou si c'est du digital. Mais après, j'en sors, disons, en ce moment, j'arrive plus trop, je suis vraiment débordée. Mais en temps normal, j'essaye d'en sortir 3-4 par semaine, voire tous les jours. À un moment donné, quand j'ai eu mon iPad, tous les jours, je sortais des dessins personnels. En plus
et
de
encore
mes
une fois,
créations.
Ce que j'entends, du coup, dans ce que tu dis, c'est que c'est vraiment un élan naturel pour toi et que c'est pas forcé en te disant « il faut que je crée du contenu, il faut que je sois visible, etc.
» C'est ça, exactement. C'est vraiment... Après, je sais qu'il y a aussi le fond. Comme tu dis, il faut créer du contenu obligatoirement pour avoir de la visibilité. Parce que l'air de rien, les réseaux, ça m'apporte pratiquement tous mes contrats. Donc, voilà, il faut l'alimenter, mais en même temps, il faut se faire plaisir. Voilà, si c'est pour se dégoûter et créer pour créer, moi, ça m'intéresse pas. Donc, je sais aussi couper. Parfois, je prends des pauses pendant 2-3 semaines, je poste rien ou je poste des vieux dessins. Ou voilà, je fais à mon rythme. Et puis, surtout, il faut pas que ça m'empêche, tout ce qui est création perso, faut pas que ça m'empêche de faire mes commandes clients en cours.
Ouais.
Donc ça, ça passe après. Voilà.
Okay.
Mais le perso
j'ai,
passe
J'en profite pour revenir un peu sur cette question de ton univers, parce que j'ai une question qui me vient, du coup, c'est si tu dessines autant, depuis 10 ans, presque un dessin par jour, du coup, je suis curieux de savoir comment est-ce que tu réussis, encore une fois, peut-être qu'il n'y a pas vraiment de réponse, mais comment tu réussis à toujours garder cette même ligne directrice, à pas avoir même l'envie d'aller explorer autre chose, ou peut-être que ça arrive, ton rapport à cet univers-là, quoi. Parce que si ça fait 10 ans que tu le creuses et que tu dessines tous les jours, ça doit faire quand même un énorme nombre de créations dans le même style.
Oui, non, mais ta question, elle est intéressante, parce que des fois, on en a un peu marre de ce qu'on fait aussi, quand ça fait 10 ans qu'on fait un peu la même chose. Donc, l'avantage, c'est que le graphisme, en fait, ça me permet de faire un peu autre chose, de pas m'épuiser, de pas m'essouffler dans ce que je suis en train de faire avec mon style de dessin. Et puis, les commandes clients aussi, ça me sort un peu de mon cadre. Donc, parce que parfois, on me demande de dessiner des choses complètement différentes et j'arrive à le sortir. Bon, après, je sors jamais de mon coup de crayon. Ça m'arrive qu'on me demande... maintenant, je sais pas si tu vois un peu les dessins qui sont hyper à la mode avec des formes un peu vectorielles. Tu sais, les silhouettes pleines, un peu les gros bonhommes, etc. Enfin, ça plaît beaucoup. On m'a demandé il y a pas longtemps de faire ça et j'ai répondu à une agence que... Voilà, moi, c'est pas mon univers. Après, je suis capable de le faire, mais c'est pas mon envie. Donc, dans ces cas-là, je leur conseille d'aller voir des illustrateurs qui font que ça. C'est leur coup de crayon, c'est leur patte. Et du coup, je sors pas vraiment de mon truc. Mais parce que vraiment, je m'épanouis dans ce style-là, en fait. J'aime le détail, j'aime quand c'est sur papier au crayon, le rendu, les dégradés de crayon. En fait, c'est vraiment... Enfin, c'est une relation spéciale avec le dessin, donc c'est vrai que c'est difficile à expliquer, en fait.
Ouais, mais du coup, c'est hyper intéressant. J'avais eu une discussion sur le podcast avec Marie-Laure Cruchy, qui est une autre illustratrice qui a fait beaucoup de choses dans l'édition, notamment. Et au moment où je discutais avec Marie-Laure, elle était dans une phase un peu de doute, où elle se sentait presque confinée, sans mauvais jeu de mots, du coup, mais enfermée dans l'univers qu'elle s'était créé, pour lequel elle était connue, tu vois. Et du coup, je suis curieux de savoir si c'est la même chose pour toi ou
ça m'arrive par moments. Et en fait, quand ça me fait ça, c'est le genre de phase où je fais plus de dessin pendant quelques jours ou pendant 2 semaines. Ou des fois, l'été dernier, je me suis lancée sur mon mur. Je change de support. En fait, quand ça me le fait, j'aime bien changer de support. Là, par exemple, j'ai fait pendant un an beaucoup du digital sur l'iPad. Et là, depuis, donc je fais le challenge Inktober, je sais pas si tu connais.
C'est un
gros challenge international qui se déroule sur le mois d'octobre pour les gens qui connaissent pas. Et en fait, il faut poster un dessin par jour sur un thème, en fait. Donc chaque jour, il y a un mot. Et ça, par exemple, c'est le genre de truc qui te rebooste. Donc c'est hyper prenant parce que l'air de rien, c'est un rythme effréné, surtout que c'est à l'encre, donc c'est vrai dessin sur papier, c'est pas du digital. Et donc, en fait, ça booste parce que tous les jours, il y a un thème, il faut sortir, il faut pas réfléchir, paf, tu sors ton truc, tu le postes, et le lendemain, t'en as un nouveau, et des jours, c'est moins bien que d'autres. Et au final, ça te sort un peu de ta zone de confort. Et ça, c'est bon, en fait, pour le moral, pour la créativité, pour tout, en fait. Et du coup, depuis le dernier challenge, j'ai eu envie de repasser au papier, alors que j'étais à fond de digital. Et puis, la transition, elle s'est fait naturellement, et voilà. Mais c'est vrai que je pense que ça arrive à tout le monde. Faut pas dire que ça peut pas t'arriver. Moi, ça m'arrive aussi des phases de ras-le-bol, quoi. Mais bon.
Ouais. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis dans ton processus créatif, que dans ces périodes de mou, tu changes de support et ça te relance c'est un espèce de cycle, en fait, quoi.
Toujours. Et les périodes de mou, elles sont aussi liées, tu vois, au moral dans l'activité, par exemple. Parce que, tu dessines pour toi, mais l'air de rien, tu gagnes ta vie avec ça. Donc, si au niveau des clients, il n'y a pas trop de commandes, et que, du coup, ça te mine un peu le moral, parce que, en ce moment, il n'y a pas d'activité, du coup, t'as pas le moral, t'as pas envie de dessiner. En fait, c'est un cercle vicieux. Et comme tout est dans le ressenti et dans l'émotion et dans la sensibilité, Ben, en fait, c'est pas, voilà, c'est un cercle vicieux et au contraire, il faudrait que ça soit un cercle vertueux. Donc, quand c'est comme ça, moi, je mets des challenges différents. Voilà. Comme tu dis, je
Ouais.
change de support ou alors je m'occupe de mon site parce que, voilà, là, j'ai refait mon site quand c'était un peu creux. En fait, je trouve tout le temps quelque chose à faire et puis après, c'est reparti, quoi.
Donc ton état d'esprit, c'est de te dire quand j'observe une sorte de baisse de régime d'un côté ou de l'autre qui m'affecte moralement, t'essaies de trouver un truc pour le
Voilà.
casser, casser le rythme, quoi, et rechanger.
C'est ça, c'est ça. Après, il faut savoir aussi faire des pauses, hein, parce que le dessin, c'est une partie de mon activité, mais je fais aussi beaucoup de graphisme. Et, après, j'aimerais vraiment à terme faire plus que du dessin personnel, mais bon, ça, c'est un rêve. Voilà, je pense que tout le monde rêve de ça. Mais voilà, il faut savoir s'écouter, en fait. Je pense que le maître mot, c'est ça, et pas se dire que parce que on m'a connu dans ce style, je dois faire que ça. Non,
Ouais.
après, bah, les clients, ils attendent qu'on les conseille, qu'on les oriente, et quand c'est pour soi, on fait bien un peu ce qu'on veut, hein, finalement. Après,
Ouais.
voilà.
Bah déjà, je trouve l'histoire que tu racontais juste avant où il y a un client qui vient te voir et tu lui dis, bah non, c'est pas mon
Ouais.
univers et j'ai pas vraiment envie d'aller vers ça. Je trouve que ça, c'est une compétence vraiment importante qu'on doit avoir en indépendant et mais qui est dure à développer.
Oui, bah après, parce que je peux me le permettre aussi. Parce que
Ouais.
bon, quand on n'a rien, des fois, on se dit, bon, bah voilà, je le prends. Mais moi, je pars du principe que si je le prends à contre-cœur, parce que je sens que c'est pas mon truc et que, ok, ça va être un challenge, mais c'est pas le genre de challenge qui me plaît de me mettre dans un style graphique qui n'est pas le mien. Donc,
Ouais.
soit je me dis je le tente et tant pis, ça va bien se passer. Soit je m'écoute et je me dis en effet bon tu peux te permettre de refuser le contrat, donc c'est pas grave, il y en aura un autre et laisse ce contrat aux personnes qui sont dans cet univers-là parce qu'il y en a plein, j'en connais qui sont dans cet
Ouais.
univers-là et je suis contente pour elles qu'elles voilà quitte à réorienter à dire voilà tu peux aller voir cette personne, elle est dans ce domaine, voilà. Après, on se complète.
Ouais.
C'est rare que ça se fasse, mais on se complète. On a tous des styles un peu différents. Je pense qu'on se fait pas de la concurrence, au contraire. On peut s'aider. Et d'ailleurs, le podcast, je pense qu'il va servir à ça aussi, à d'autres
Complètement.
illustrateurs. Voilà.
Complètement, complètement. Et ça fait partie de ce que j'ai envie d'apporter avec ce projet aussi, d'essayer de donner des élans et de permettre à peut-être aussi certaines personnes qui ont moins de visibilité d'en avoir parce que je trouve qu'elles ont des choses hyper intéressantes à raconter. Donc je te rejoins dans cette vision collaborative de l'indépendance, en fait. Même si on a le même métier, on n'est pas là pour se tirer vers le bas, entre guillemets, et se faire concurrence, mais au contraire, on a les mêmes
C'est
enjeux et
ça.
les mêmes ambitions, donc avançons ensemble.
Exactement. Puis en plus, on est quand même dans des domaines qui sont un peu obscurs, quoi. Donc, moi, je sais que je suis une illustratrice qui fait pas mal de choses pour aider d'autres illustrateurs, qui s'appelle Elodie Illustration, qui est une nana j'ai jamais rencontrée, mais on échange souvent. Elle est adorable. Et en fait, elle est pareille dans cette dynamique-là. Et elle a créé une communauté où donc pas mal d'illustrateurs échangent. Et on parle aussi, par exemple, de quel statut adopter quand on se lance, parce que bah il y a la maison des artistes, il y a l'auto-entrepreneur, mais suivant quelle activité que tu fais, ça va pas s'y prêter. Donc en fait, quand on se lance aussi, on est un peu perdu. Donc je pense qu'on peut
Ouais.
s'aider. Pareil, à pas brader nos créations, parce que ben après ça tire le marché vers le bas et ça
Ouais.
sert à personne. Donc en fait, je pense que par rapport à des métiers dans la restauration ou je sais pas, moi, dans le commerce général, où, entre guillemets, il y a des prix qui sont fixés, ou même dans certains services, nous, c'est un sujet un peu délicat, les prix, mais c'est vrai que c'est un sujet de fond, quand même. Chacun fixe un
C'est
peu son
clair.
truc, mais quand il y a des jeunes étudiants qui sont là, ou des jeunes diplômés qui commencent et qui savent pas où se baser, bon, c'est compliqué aussi pour eux. Et après, ça peut être
Ouais,
compliqué pour tout le monde, parce que finalement, le client, il va voir là où c'est le moins cher, et puis, voilà, il aura peut-être pas ce qu'il veut. Enfin bref, c'est pas évident. C'est un peu au point, tout ça, mais.
c'est un sujet important et je pense que ça revient à ce qu'on se disait sur ce que tu fais sur ton site, sur le sujet de l'éducation aussi, de mieux éduquer à la fois nos clients, mais aussi les gens qui se lancent dans cette merveilleuse aventure de l'indépendance sur comment ça se passe, ce qui est important, les bonnes questions à se poser, les bonnes pratiques, pour qu'on avance tous ensemble au
C'est
final, parce
ça.
que c'est à la fois au service des indépendants, mais aussi au service des clients in
Au
fine,
service.
parce que Sinon, on est obligé de prendre 35 contrats par mois. On peut pas mettre beaucoup de temps et d'attention sur le travail qu'on fait pour certains clients. Donc, c'est au service de tout le monde, finalement, cette réflexion, je trouve.
Exactement, tout à fait.
Et je voulais juste, du coup, encore une fois, tout à l'heure, tu parlais des... qu'avec certains clients, tu avais des commandes qui n'étaient pas à 100% dans ton univers. Et j'ai l'impression que, du coup, tu fais le choix conscient de ne pas communiquer sur ces commandes-là pour garder la cohérence de ton univers. C'est le cas?
Oui. Ouais, ouais, c'est le cas. Après, en fait, en général, c'est pas que c'est pas dans mon univers, parce que si les gens, ils viennent vers moi et que j'accepte, c'est que ça colle. Mais c'est que parfois, le projet, il peut dériver, entre le brief, les échanges ou quoi. Enfin, finalement, c'est plus exactement ce que j'avais imaginé. Donc, dans ces cas-là, moi, je suis pas satisfaite du résultat du projet, donc, je le mets pas en ligne. Et après, en effet, j'ai tellement de projets que je suis obligée de faire une petite sélection parce que si j'en mets trop sur mon site, je pense pas que ça soit le plus adapté. Et puis je mets ce qui peut être le plus orienté, qui peut le mieux accompagner le client, parce que des fois il y en a qui sont pas complets mais que j'ai adoré faire, ou d'autres qui sont plus complets, etc. Donc ça me permet de sélectionner tel ou tel projet.
C'est quoi les questions que tu te poses du coup quand t'essayes de faire cette sélection, justement, parce que je sais que c'est un gros enjeu pour la plupart des profils créatifs qui ont des portfolios, de choisir les projets?
Ben en fait, je pense que c'est vachement au coup de cœur. C'est aussi les bons... ce que le projet me laisse comme ressenti, en fait. Parce que des fois, c'est des belles rencontres aussi, c'est des belles collaborations avec le client. Et j'ai envie d'aussi le mettre en avant. Parce que, ben... Après, voilà, moi, je mets en lien leur page, leur site internet, et quand c'est des personnes qui sont pas très connues, ben, je me dis, ça peut leur faire une petite pub, ou voilà. Et puis après, je pense qu'aussi, mais je le fais pas assez, je pense qu'il faut que ça tourne. Donc là, par exemple, j'ai des nouveaux projets qui m'ont beaucoup plu, j'ai pas eu le temps de les mettre en ligne sur mon site, mais à terme, j'aimerais bien que ça soit pas figé, et que je puisse remplacer tel projet par un autre. Et c'est pour ça que j'ai refait mon site et j'ai tout refait sur WordPress pour que ça soit plus facile. Voilà. Un jour, je vais en mettre un autre. Voilà. C'est plus simple qu'avant. C'était tout en code.
C'est intéressant, ça, parce que j'ai l'impression que la vision classique de ce genre de choses, c'est on rajoute les choses nouvelles, mais j'enlève pas les anciennes forcément. Ouais. Toi, du coup, tu vois vraiment cette espèce de roulement, en fait.
Oui, en fait, j'aimerais bien que ça soit un peu comme mon humeur, quoi. Donc, mon site, un peu comme d'ailleurs le feed Insta. On le voit évoluer, en fait, quand on descend dans le feed, on voit des moments, c'est jamais voulu, à moins que, oui, il y en a qui font des trucs vraiment hyper calculés pour qu'il y ait des ambiances de couleurs ou quoi. Mais moi, je calcule rien. Et du coup, je le vois que ça évolue, en fait. Et j'aimerais que mon site, il puisse être comme ça, évolutif. Et que voilà, en fonction des moments, j'ai plus envie de mettre ça en valeur ou... aussi en fonction de mes envies, hein, parce que des fois j'ai plus envie de faire du graphisme ou de l'illustration, donc je pourrais peut-être plus valoriser ça. À voir.
Ouais, c'est ce que j'allais demander. Du coup, est-ce que tu as l'impression aussi que, en fonction de ce que tu montres, sachant que tu as une belle cohérence dans tout cet univers, ça te permet aussi d'attirer plus le genre de choses sur lesquelles tu as envie de travailler?
Ah oui, mais carrément. En fait, mon ancien site, j'avais très peu mis en avant l'image de marque. Et depuis que je l'ai refait, bon, après j'ai communiqué sur LinkedIn avec, j'ai eu énormément de visites sur mon site, enfin mon post a fait beaucoup de vues, donc je pense que ça a influencé les retours que j'ai eus, mais j'ai eu beaucoup de demandes de création d'images de marque. Donc oui, en effet, je pense que vraiment ce qu'on met en avant, et surtout la manière de le présenter, les gens vont retenir mieux en ressortant que elle fait donc ses services, c'est ça, ça et ça. Et donc peut-être qu'avant c'était pas assez clair aussi. Donc j'ai progressé sur ce point-là.
Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a ce truc aussi dans la création de se dire si t'as envie de travailler sur certaines choses, faut aussi que tu montres que t'en es capable. Alors qu'on pourrait se dire, tu vois, quand on comprend le métier, on se dit voilà, si je montre que je sais faire ça, forcément, ils vont se dire que je sais faire cette autre chose qui, techniquement, est équivalent, mais c'est pas toujours le cas pour les clients, quoi.
Non, après, ça dépend des clients, parce que des agences, ils connaissent le métier, ils savent que, en effet, elle a fait ça, elle peut faire aussi ça. Mais les clients, entre guillemets, qui sont pas du domaine, donc les entreprises, par exemple, elles ont besoin d'être accompagnées, qu'on leur dise, oui, en effet, des fois on me dit, est-ce que vous pouvez dessiner, je sais pas moi, un raisin, parce que j'ai que des portraits. Ben, je dis oui, en fait, du moment où je sais dessiner, je peux dessiner n'importe quoi. Un raisin, un paysage, des paysages. C'est la question surtout pour les paysages, par exemple. En fait, on peut tout dessiner. Après, c'est juste que je mets ça en avant plus qu'autre chose. Mais en effet, par exemple, ce que j'ai pu faire pour la compagnie du Ponant, qui est une compagnie de croisière en yacht dans l'Antarctique et choses comme ça, eux, ils m'ont fait une commande de paysage avec des avec une banquise, etc. Et au départ, ils savaient pas trop que je pouvais faire ça. Donc maintenant, je l'ai mis en ligne sur mon site. D'ailleurs, je crois que ça y est sur mon nouveau site, je sais plus. Et du coup, ça montre aux gens que voilà, on peut aussi faire ça.
Ouais, ce qui reste quand même encore une fois dans ton style avec ton propre coup de crayon qui te ressemble.
C'est ça.
Et du coup, juste pour encapsuler cette discussion sur l'univers, est-ce que tu penses que pour un profil designer ou illustrateur, c'est une nécessité absolue de se créer une sorte d'univers de référence pour lequel t'es connu ou pas ?
Tu veux dire un style graphique ou un univers dans le plutôt un portfolio avec tu veux dire ce qu'il présente ?
Un peu des deux. J'imagine que le portfolio est de toute façon une espèce de représentation de la direction que la personne veut prendre, mais tu vois, moi, j'ai en tête certaines personnes que je connais qui sont des profils créa, designer, illustrateur, etc., qui ont du mal justement à se, entre guillemets, confiner ou s'enfermer dans un style et qui aiment explorer plein de choses différentes. Mm-hmm. Et du coup, je suis curieux de ton avis sur est-ce que tu penses qu'il faut absolument avoir cet univers ou ce style ultra représentatif qu'elle tient.
Non, je pense pas. Après, je pense que malgré, en fait, je pense que, enfin, c'est compliqué à expliquer. Je pense que le dessin en lui-même, on ressent l'âme de la personne dans son dessin, ça c'est sûr. Et après, c'est les outils qui varient. Mais on sentira toujours un peu la sensibilité de la personne dans ses dessins. Et malgré le changement d'outils. Mais après, oui, je pense que toucher à tout, au sens plus large, comme des grands comme Picasso faisait, ou des dieux comme ça, des artistes de dingue, qui touchaient à tout, en fait, qui ont pu faire plein de choses différentes. Au contraire, ça les a enrichis, ça les a construits. Moi, j'aimerais pouvoir toucher à tout et faire encore plus de choses. Mais c'est juste que, après, j'ai peur de me perdre, en fait. Mais bon, je pense qu'il faut vraiment suivre son envie, et son envie créative, et puis pas se brider, en fait, au contraire. Parce que c'est pas le but. Pense. Et après, si on a peur justement de perdre une identité et que le client se reconnaisse pas, à dire bon bah il fait un peu de tout, je sais pas si, bah à la limite, pourquoi pas scinder dans un portfolio plusieurs, enfin d'une manière organisée quand même et présenter plusieurs choses. Voilà. Mais au contraire.
Et effectivement, comme tu le disais, potentiellement faire évoluer ça en fonction de ses envies. Ça se trouve, t'as quatre styles différents. Et juste, tu fais changer ton portfolio de manière cohérente par rapport à ça pour t'attirer ce que tu as envie, quoi.
Exactement, ouais. Et puis, en fonction des projets aussi. Par exemple, je pense au collage ou... Enfin, moi, quand j'ai des commandes clients en graphisme, je m'interdis pas de faire de la photo, de faire du collage ou de faire... Bon, je fais pas toujours du dessin, mais parce que là, on touche plus à la partie graphique. Après, c'est vrai que dans le dessin lui-même, quand on me commande vraiment un dessin purement... je reste quand même dans mon univers, mais parce que c'est ce qui me plaît. Voilà. Si j'aimais faire d'autres choses, je m'embêterais pas, je proposerais d'autres choses aussi.
Ouais. Et du coup, tu disais tout à l'heure, on a touché un mot dessus, que tu disais je rêve de ne faire que mes propres dessins et de pouvoir vivre de ça. Tu me racontais tout à l'heure que tu as commencé à vendre tes illustrations via Instagram depuis le début du confinement. Est-ce que tu peux nous partager un peu ta démarche derrière ça ? Pourquoi tu as passé cette seconde phase ?
Alors, une démarche au départ, comment dire ? Bon, y a plusieurs raisons. Donc, il y a une première raison qui est que on me demandait souvent d'acheter mes dessins. Et en fait, moi, j'arrive pas à vendre les originaux. Quand je les fais sur papier, j'arrive pas à m'en séparer. Ou alors, parce que je suis pas contente de ce que j'ai fait et que les gens, ils adorent, je me dis, bon, bah tant mieux, ça fera un heureux. Mais sinon, en général, quand je trouve le dessin réussi, j'arrive pas à m'en séparer. Donc, j'avais le problème d'arriver à proposer mes dessins en vente et de trouver un prestataire qui puisse vendre mes dessins de qualité. Donc, je voudrais un rendu de qualité. Et il y avait aussi le côté rentabilité, l'air de rien, de mes créations personnelles. Parce que, bon, tu me dis, tout ça, je le fais à mes heures perdues. Mais pourquoi pas me dire que, bah, tiens, ces dessins, comme ils plaisent, je pourrais arriver à les vendre et en faire un revenu complémentaire. Et le dernier point, c'était, comme tu le dis au départ, d'arriver à faire plus que ça aussi. Donc, en fait, il y a trois raisons au départ. Donc, la raison technique, c'était de trouver un imprimeur qui puisse me faire ça. Donc, moi, là où j'habite, c'est assez compliqué. Donc, en tournant la question dans tous les sens, j'ai réfléchi à m'équiper et donc acheter une imprimante d'art, donc qui fait des tirages très haut de gamme, même type qu'en laboratoire photo, voilà. Et sur du papier d'art. Donc, l'avantage, c'est que j'arrive à contrôler toute la création de A à Z, et en fait, c'est un pur bonheur, quoi. Voilà, c'est génial, parce que, ben, du coup, j'imprime au besoin, à la commande du client, je peux le personnaliser si je veux, enfin, je fais comme je veux, en fait.
Voilà. Du coup, il y a une forme de diversification de ton activité, finalement, que tu déploies bientôt sur ton site internet, d'ailleurs, aussi.
Oui, la boutique, ça, c'est la partie moins sympa. Parce que bon, j'en parlais hier avec une amie justement, parce que pour l'instant je fais tout par message privé et donc toutes les commandes passent par Instagram ou par d'autres réseaux et en fait je trouve que c'est sympa dans la mesure où j'arrive à échanger avec les clients, donc j'ai un contact direct avec eux et c'est un peu comme s'ils venaient à ma boutique en fait et que je discutais avec eux. Et le problème de la boutique en ligne, c'est qu'on perd ça, en fait. Et ça, ça me gêne un peu. Mais bon, je vais quand même la faire, parce que pour des raisons techniques, c'est quand même plus pratique, ne serait-ce que pour les paiements ou des choses comme ça. Mais et pour aussi ceux qui n'ont pas des réseaux, parce que tout le monde n'est pas connecté à des réseaux sociaux.
Instagram, ouais.
Voilà. Et mais bon, dans l'absolu, ça me convenait bien comme ça. Mais la boutique sera bientôt prête, c'est en préparation.
Et du coup, par rapport à ça, et j'imagine potentiellement d'autres idées que tu as au fil de tes petits dessins le soir à réfléchir, c'est quoi tes perspectives d'évolution pour la suite? Genre, quand on est une illustratrice qui vide son travail, qui commence à vendre ses propres créations aussi, c'est quoi pour toi la vision future de ton activité?
Ben, alors moi, clairement, enfin c'est un peu des rêves d'enfant, mais là en ce moment je me dis illustratrice et je fais bien la distinction entre illustratrice et artiste et j'aimerais bien à terme être artiste. Bon, après faut avoir le potentiel, il faut avoir tout ce qu'il faut pour réussir et surtout les qualités graphiques et voilà, donc à terme j'aimerais ça. J'aimerais par exemple qu'on m'achète mes créations et pas qu'on me commande quelque chose de sur mesure. Voilà. Et pouvoir le proposer sur tout type de support. Alors, moi, ce que j'aime, c'est la décoration aussi. Par exemple, sur du papier peint, travailler avec des décorateurs, en fait, ou customiser des objets ou des choses comme ça. Et faire à côté mes propres tirages d'art. Voilà. Là, par exemple, l'imprimante que je me suis achetée, je peux mettre un rouleau dessus de papier. Donc, c'est un énorme rouleau. Donc, je peux tirer des laits de papier peint ou faire des panoramiques, enfin, varier les supports, enfin... En gros, plein de choses. J'ai pas vraiment de limite.
Ouais. Mais... Ah ouais, c'est fou. Les papiers peints et tout, c'est énorme.
Ouais. Je peux faire plein de choses avec cette imprimante. Mais enfin, voilà. Du coup, j'ai pas vraiment de limite. L'idéal, ça serait d'arriver à faire plus que ce que j'ai envie de faire, en fait. Ça, c'est ce que rêve tout le monde, hein, finalement.
Ouais, bah oui, finalement. Et je pense que, ça fait partie de ce voyage de l'indépendance, quoi.
Oui, mais alors, justement, c'est... Quand on est indépendant, on se dit je vais enfin être libre, je vais faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Sauf qu'on oublie que en fait le client c'est ton patron. Donc finalement, t'as beau l'amener là où tu veux, des fois ça marche pas toujours. Puis au final c'est lui qui a un besoin, donc c'est toi qui dois répondre à son besoin. Et moi ce que j'aimerais vraiment dans la liberté totale, c'est de me dire en fait je fais mes propres choix et les personnes viennent. Parce qu'elles ont un coup de cœur sur ce que moi j'ai fait, en fait. Voilà.
Ouais.
Et ça, c'est.
Et par rapport à ça, du coup, c'est quoi les directions, les stratégies, les actions que tu penses mettre en place pour y arriver? Là, tu as commencé par je vends mes propres créations, mais comment tu penses faire pour avancer sur ce chemin-là dans le futur?
Après, je pense que Bon, alors, pour tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, les belles rencontres, enfin, les belles collaborations, on va dire, ça a été grâce au réseau. Donc, je pense qu'il faut continuer à être présent sur les réseaux parce que ben on arrive à faire de belles rencontres aussi. Et après, ben la prospection, je pense que ça peut le faire, être présente. Moi, les vernissages, tout ce qui est vraiment domaine d'art comme ça, ça me branche pas trop. J'aime bien être un peu en retrait. Mais voilà, après, pourquoi pas varier les supports. Si un jour, je peux avoir un atelier, m'équiper mieux pour faire plus de supports, des toiles, des grands formats, des choses comme ça. Parce que ça, ça l'air de rien, ça plaît beaucoup aussi. Donc voilà, à voir. J'ai pas vraiment de... Pour l'instant, j'essaye de gérer la boutique. Parce que l'air de rien, ça demande beaucoup de boulot en plus de la charge de travail actuelle. Et puis après, on verra au fur et à mesure.
Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que dans la démarche que tu as déjà avec tes clients, mais de démontrer l'infini des possibles de la diversité des supports, c'est déjà, je pense, quelque chose d'assez intéressant parce que ça t'ouvre de nouvelles portes. Tu parlais de décorateurs. Je pense pas que ce soit la réflexion première des illustrateurs de se dire, je pourrais utiliser mes illus en déco. J'ai l'impression que t'as une bonne visibilité de toute la diversité des utilisations possibles.
Ouais. Après, parce que voilà, j'ai aussi échangé au bon moment avec certaines personnes qui étaient intéressées pour acheter mes dessins, les mettre dans leur catalogue, etc. Et le problème, c'est que des fois, on a plein d'idées et on n'a pas le temps de se poser pour aller jusqu'au bout. Donc, ça fait partie des projets. Celui-là, il faut que j'aille jusqu'au bout. Mais oui, voilà. Et puis après, je crois vraiment aux belles rencontres et à la bonne étoile, encore une fois, parce que dans la vie, on a beau tout calculer, des fois, c'est au moment où ça doit se passer, ça se passe, et puis voilà, ça te tombe dessus, et ça évolue comme ça, en fait.
C'est intéressant, parce que pendant toute la discussion, là, j'entends beaucoup de choses que tu me dis qui relèvent de l'intuition, du fait de s'écouter, toute cette partie peut-être plus intangible que, personnellement, je trouve on met beaucoup trop de côté dans la gestion de son activité quand on est indépendant. Parce que faut être stratégique. Là, on parlait d'univers et du coup, il faut avoir un univers cohérent pour trouver des clients qui vont dans cet univers, etc. Comment tu trouves, toi, cet équilibrage entre une réflexion réfléchie, comme tu dis, pour son activité et un truc plus peut-être intangible, moins mesurable, où on se dit, là, je sens que c'est par ici qu'il faut que j'aille, et ainsi de suite.
C'est difficile à trouver. Le bon chemin est bien dosé, en fait. Mais encore une fois, je pense que ça vient aussi des creux dans l'activité, des moments où on se remet en question. Et en fait, il n'y a rien sans rien qui arrive. Donc, moi, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à profiter du moment présent. Mais en même temps, j'aime bien être rassurée dans ce que je fais. Donc, en fait, c'est un juste milieu. Mais je me repose jamais sur mes lauriers. Par exemple, quand j'ai une faible activité, que je sens que j'ai besoin de rencontrer des nouveaux clients, je vais me remettre un peu dans du démarchage par mail, par exemple, puisque ça, je l'ai fait quand je me suis lancée. Ça m'a fait connaître auprès de plein d'agences. Et donc, en fait, une fois que t'as un bon site, tu fais ça de temps en temps, tu te dis, voilà, déjà, la partie stratégique, je me laisse pas aller, je vois que c'est un peu creux. Je fais un peu de démarchage. Une fois que j'ai fait ça, je me dis j'ai fait le taf. Et maintenant je vais me faire plaisir et je vais faire d'autres choses. Et du coup, c'est dans les autres choses qu'on fait parfois que ça peut décoller parce que une création perso qui va plaire et ça va faire un maximum d'audience. Et voilà, et tout part de là.
Ouais, je trouve ça hyper intéressant et important ce que tu viens de dire sur. Malgré le fait qu'on ait une certaine visibilité, une certaine réussite pendant un temps, ne jamais être se dire « Ah non, mais moi, je vaux mieux que la prospection, par exemple. » Parce que la perception qu'on peut avoir de la prospection, c'est le truc que tu fais au début quand personne te connaît.
Non,
et je trouve ça hyper
tout.
Important de se dire, justement, au moment où ça commence à entre guillemets, redescendre, faut pas se dire « Qu'est-ce qui se passe ? J'ai plein de followers, plein de gens qui me suivent, ça devrait pas se passer. » Et avoir l'humilité de s'y remettre, quoi.
C'est clair que ça fait jamais plaisir de se relancer dans la prospection, mais en même temps, je me dis, franchement, déjà, d'une, c'est pas du tout compliqué de le faire, quoi. Tu prends une matinée, tu réfléchis à qui t'as envie d'aborder, quel type d'activité, etc., tu veux toucher. Ça te permet aussi de t'ouvrir sur d'autres choses, en fait, de faire des recherches sur tel secteur. Et une fois que tu l'as fait, si tu as des retours, c'est hyper motivant. Donc, bon, après, oui, c'est sûr que, franchement, je le fais pas hyper souvent, mais j'hésite pas à le faire, quoi. Et puis, il n'y a pas de honte, comme tu dis, il faut pas non plus... De toute façon, les followers, franchement, c'est pas eux qui nous font le plus vivre, hein, c'est... Après, c'est les contacts, des contacts, et puis c'est les bonnes rencontres, et puis c'est... Voilà, c'est tout ça. Voilà. Après, les trois quarts des particuliers, ils nous soutiennent, ils nous encouragent, ils nous donnent le moral parce qu'ils sont toujours là pour nous soutenir. Mais c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément eux les clients. Mais par contre, c'est eux qui nous donnent l'envie de continuer et qui nous disent, bon, ben, voilà, ça vaut la peine, regarde, ça transmet de l'émotion, les gens réagissent et ça, c'est ce qui donne envie de continuer. Mais c'est par exemple, moi, j'ai plusieurs pages. J'ai Facebook, Instagram, LinkedIn et Behance. Et elles ont toutes un public complètement différent et complètement complémentaire. Sur LinkedIn, ça sera beaucoup plus le réseau pro, donc qui m'amène énormément de contrats. Insta, c'est beaucoup plus les particuliers, mais en même temps, les illustrateurs, j'échange avec des personnes qui sont du même domaine que moi, donc on se construit mutuellement. Et Facebook, c'est beaucoup plus les particuliers, enfin voilà. C'est et tout ça en plus de la petite entreprise, de enfin c'est hyper c'est puissant en fait hein tout ça. Ouais, même si on est tout seul dans notre bureau perdu en campagne, on côtoie beaucoup de monde en fait.
Ouais. Puis je pense que ça devient de plus en plus puissant avec le temps, la régularité. En fait, toi, l'effet cumulé de un dessin par jour posté sur les réseaux sociaux sur 10 ans. C'est ça qui fait aussi à quel point maintenant tu as ces différents univers qui gravitent autour de toi, quoi. Et je pense que c'est important de le rappeler, un dessin par jour, même si ça vient d'un élan naturel pour toi, c'est énorme, quoi.
Oui, après, bon, c'est pas toujours un par jour, hein, mais je suis pas... Justement, je veux dire, Picasso, il en faisait un par jour, mais putain, je suis pas encore à ce niveau-là. mais bon, ouais, j'en fais beaucoup, beaucoup. C'est vrai que j'en fais énormément, mais d'ailleurs, j'ai des disques durs de plein de dessins, j'en ai un peu partout. Enfin, ouais, il faudrait que je trie tout ça, un de ces quatre, hein, d'ailleurs.
On va arriver sur les questions rituelles de fin d'épisode, Amandine.
Oui.
La première question... C'est dans ces 10 années d'indépendance, c'est quoi la plus grosse galère que t'as vécue et comment t'as fait pour la dépasser?
Alors, les plus grosses galères, je sais pas si on peut vraiment parler de grosses galères. En fait, le plus compliqué pour moi à gérer, c'est quand ça se passe mal avec le client. Parce que malheureusement, ça arrive. On n'est pas tous fait pareil, on n'est pas tous fait pour s'entendre, même si on travaille bien et que chacun a envie que ça fonctionne, des fois ça fonctionne mal. Donc je pense que c'est ça. Après, ça arrive très rarement. Mais oui, ce serait ça, je pense.
Comment tu fais pour mieux le vivre quand ça se passe?
Ben, en fait, ouais, si, par exemple, j'ai un exemple où j'ai arrêté les frais, en fait, en cours de contrat, j'ai senti que ça pouvait pas bien se passer. Donc, j'ai décidé d'arrêter en cours et de rembourser le client. Voilà. Je lui ai dit, il m'avait fait un acompte et je lui ai dit, bah, écoutez, je pense qu'on va arrêter les frais. Je vous rends votre acompte. Moi, j'ai travaillé pour rien, mais je préfère qu'on arrête. Voilà. Mais après, voilà, moi, j'aurais peut-être pas dû le faire non plus parce que c'est pas moi qui étais dans une position qui devait entre guillemets, enfin, comment, je sais pas comment expliquer, c'était pas à moi de rendre, de faire ce pas. Mais en même temps, moi, ça me pesait trop. Donc, et puis après, ça engendre plein de choses sur mes émotions et mon humeur et tout ça, donc voilà, j'avais préféré arrêter. Mais c'était pas un gros contrat en plus, hein. Parfois c'est pas forcément les plus gros clients qui font les plus gros tracas. Ouais. Hein.
C'est clair.
Mais bon.
Mais c'est hyper intéressant.
Après, ouais, c'est pas facile. Voilà.
Ouais, mais cette sensibilité que tu te dises, je préfère renoncer à ce contrat pour mon équilibre émotionnel et mon bien-être mental. C'est, je trouve, un beau pas et un beau geste à faire envers toi, quoi.
Ouais. Après, pour moi, c'était un échec, hein. Moi, je l'ai pas pris comme, je l'ai pas pris comme ça. Je me suis dit, en fait, j'ai pas réussi à le gérer, le client. Voilà, c'était pour une création d'image de marque, donc voilà, c'était pas de l'illustration, mais c'est pareil, ça reste de la création pure et dure, donc et du coup, pour moi, c'était un échec. Mais bon, après, voilà, il y en a comme ça, malheureusement, il y a eu ce cas-là. Après, des projets que j'avais hâte que ça se termine, il y en a toujours, mais c'est faible quand même. Il y en a pas tant que ça. Mais bon.
Et de moins en moins ou pas?
De moins en moins, parce qu'en fait, maintenant, j'ai cette espèce de radar qui fait que je le sens quand ça passe pas. Quand d'entrée, le feeling, il y a un truc qui fait qu'on n'arrive pas à se connecter avec le client, ben, je préfère, voilà, dire non, voilà, ou me mettre une espèce de bouclier qui fait que le client sent que, voilà, ça le fait pas trop. Donc, voilà, du coup, on passe à autre chose, chacun fait sa route et voilà. Et je préfère pas, du coup, dans ces cas-là, entamer une collaboration.
Ok. La seconde question, c'est si tu étais face à Amandine plus jeune, c'est son premier jour d'indépendance, son premier jour en freelance, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais après toutes tes expériences depuis ?
Ben, ça serait de rester moi-même, en fait. Parce que je suis hyper sensible comme personne. Et des fois, je me dis que avec mes clients, j'ai pas assez de poigne, en fait, j'ai pas assez de force pour instaurer un climat cadré. En fait, j'ai tendance de suite à rentrer en contact avec le client, à être proche de lui, en fait. Et je me rends compte que c'est pas en mettant peut-être plus de barrières ou que ça se passera mieux, en fait, parce qu'au final, le client, il vient parce que c'est ma sensibilité, c'est ma personne. Et si c'est le cas, ben il faut que je sois moi-même, en fait. Donc je me suis plein de fois questionnée sur ma manière d'aborder les, en fait, ce qui me tracasse le plus, voilà, dans le fait d'être patron, c'est de gérer les litiges ou de gérer ce genre de choses ou de cadrer le client, gérer la facturation, gérer les devis, comment apporter le truc s'il met. Et en fait, je pense que tout ça, c'est un autre métier, finalement on est amené à le faire, donc le mieux, c'est de rester soi-même. Et voilà, et dans ces cas-là, ça se passe au mieux. Mais c'est vrai que c'est une part de travail qui est pas forcément la plus éclatante, quoi. Voilà.
Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant, ce truc-là, de trouver l'équilibre entre je reste moi et en même temps je travaille comme je devrais travailler de manière structurée, etc., quoi.
Oui, c'est de rester soi-même et en même temps être entrepreneuse, une femme forte, etc., s'imposer, arriver à se faire respecter et tout ça. Et en fait, finalement, je me rends compte que on a beau faire des efforts pour paraître plus forte ou si ou mi et se faire mieux respecter, parce que dans les contrats avec des grosses marques, des fois, c'est pas évident. Je parle d'aller-retour qui déborde, je parle de délais qui sont pas respectés, je parle de tout plein de choses comme ça qui font que au début, on se sent dépassé, on se dit bon, j'ai fait une erreur, j'ai pas fait comme il faut ou quoi. Mais en fait, je pense que c'est les aléas du métier et que voilà, il faut apprendre à le gérer comme ça. En restant tel qu'on est.
Ouais, je te rejoins à fond là-dessus. Et du coup, la dernière question, c'est quelle est la question, justement, un peu méta, quelle question tu as envie de poser aux gens qui nous écoutent pour que cette semaine, ils prennent un temps pour réfléchir en profondeur à leur activité et leur vie de freelance?
Ouais, ben en fait, c'est la question toute simple, c'est de, est-ce que le matin, en fait, enfin quand ils se lèvent, ils ont envie d'attaquer cette journée et qui sont pleins de motivation pour faire des nouvelles créations, des nouvelles choses, etc. En fait, moi, je pense que c'est ça qui fait que on a envie de se lancer en freelance ou on est très bien dans son activité telle qu'elle est. C'est l'envie de se lever le matin avec l'envie de créer de nouvelles choses, en fait. Je sais pas si ça répond à la question.
Ouais, complètement. Je vais la rephraser pour les gens qui nous écoutent.
Ouais.
Du coup, toi qui nous écoutes, quand tu te lèves, est-ce que t'as l'envie de te lancer dans ta journée, d'expérimenter des nouvelles choses et de créer des nouvelles choses? Et j'ajouterais du coup, si tu n'as pas cette envie, pourquoi?
Voilà, exactement. Exactement. Parce que bon, le métier, notre travail, on le fait tous les jours. On y passe une grande partie de notre activité. Donc, si on le fait, autant que ça nous passionne et qu'on soit motivé par ce qu'on fait, en fait.
Carrément, et qu'on kiffe le chemin.
Voilà.
Merci beaucoup, Amandine, pour cette discussion. Je suis vraiment ravi qu'on ait pu parler de toutes ces choses. Où est-ce que j'envoie les gens qui veulent échanger avec toi, en savoir plus, voir tes merveilleuses créations et ton univers si cohérent?
Oh ben, ou là où tu veux. Alors mon site internet, ma page Insta, enfin ce que tu veux. Franchement, je réponds
Ok.
sur toutes les plateformes, tous les réseaux. Donc là où ça les arrange. Donc s'ils veulent découvrir mes illus, c'est surtout sur Instagram. Et après tout ce qui est graphisme et images de marque, tout ça, ça sera plus sur mon site. Voilà.
Ok, merveilleux. Bah, je mettrai tous les liens en
Super.
description et sur la page web du site. Bah, je te dis merci beaucoup, Amandine, pour cette discussion. C'était chouette.
Merci à toi. Désolée pour le couac de fin qui a. Je capte pas très bien dans ma campagne, donc voilà.
T'en fais
C'était
pas,
la
t'en fais
fin.
pas.
Bon, merci à toi en tout cas.
Ciao.
Ciao, merci.
Dans cette conversation, j'ai beaucoup aimé observer la manière dont Amandine restait à la fois connectée à ce qui est vraiment important pour elle, à son intuition et à ses ressentis, tout en réussissant à garder un regard très rationnel et stratégique sur son business, le développement de son activité, la manière de toucher ses clients et de les éduquer, etc. Enfin, cet équilibre-là, je pense que c'est une clé vraiment importante pour chaque freelance, pour chaque indépendant, que de réussir du coup à trouver ce point d'alignement entre notre référence interne, nos aspirations, nos valeurs, ce qu'on souhaite vraiment faire au quotidien, et la référence externe, les besoins concrets de nos clients idéaux, le feedback qu'on reçoit du marché et tous les retours qu'on peut avoir sur notre travail. Et du coup, de toujours faire ce jeu d'équilibrage, on prend en compte tous les signes de l'extérieur, et ensuite on revient à soi pour trouver son alignement là-dedans et construire sa place et son propre univers, comme Amandine le fait si bien. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, ce serait merveilleux que tu puisses me laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou alors sous ton application d'écoute préférée, parce que c'est vraiment ce qui m'aide le plus à développer ce projet. Et d'ailleurs, je tenais à remercier Rukia, qui dit dans son commentaire que le podcast est une mine de ressources précieuses, inspirantes et concrètes pour son activité. En tout cas, j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine, mais d'ici là, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye!